Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour ? 19 décembre 2022. Adoption de l'accord de Montréal pour la préservation du vivant sur Terre lors de la COP15 de la diversité biologique. Qu'est-ce que la COP15 de la diversité biologique ? Quelle différence avec la COP27 pour le climat qui a eu lieu également cette fin d'année ? Pourquoi l'existence d'une telle COP ? Quels engagements ont été conclus en décembre cette année pour la première fois depuis l'existence de cette COP ? Qui en est à l'origine ? Dans un précédent épisode de Feuilles de chou, les COP et l'origine de leur existence avaient été présentées. Pour rappel, une des conventions signées au sommet de la Terre de Rio en 1992 pour préserver le vivant et l'avenir de l'humanité portait sur la diversité biologique. Elle rassemble 195 États et l'Union européenne tous les deux ans depuis 1994. Moins connue que la COP sur le climat, celle-ci est pourtant intimement liée sur le plan scientifique. L'environnement et ses conditions influençant le vivant, et le vivant influençant sur les conditions de l'environnement. En clair, les cycles comme celui du carbone sont intimement liés au vivant qui en est composé et le transforme. Un arbre qui fait de la photosynthèse et se fossilise par exemple, tout en étant un agent actif dans l'atmosphère pour contribuer à ce qu'on appelle l'effet de serre. Les objectifs pour diminuer le dérèglement climatique et préserver la forêt semble alors très peu éloigné. La nuance apparaît dans la complexité du vivant. Contrairement à un bilan carbone, qui représente des chiffres, la diversité biologique fait appel à des connaissances naturalistes, au recensement des espèces, mais également à leur capacité à se maintenir sur cette planète. Si une population, un ensemble d'individus d'une espèce d'étoile de mer par exemple, vient à diminuer drastiquement, il se peut qu'elle atteigne un seuil de non-retour, où elle n'aura plus suffisamment d'individus pour se reproduire ou réaliser un brassage génétique nécessaire pour éviter des étoiles de mer déficientes, sur le plan physique ou reproductif. S'intéresser à la diversité du vivant veut donc dire prendre le temps de le considérer à plusieurs échelles, de la génétique d'individus à l'habitat, dans lequel vivent un ensemble d'espèces en interaction et que l'on nomme grossièrement un écosystème. Malgré l'intervention de plusieurs scientifiques lors de ces regroupements mondiaux d'États, ces notions scientifiques sont peu intégrées dans les décisions et engagements à l'issue de chaque COP. Pour enrichir les échanges de la COP cette année, l'Union internationale de conservation de la nature, UICN, a ainsi publié vendredi 9 décembre, deux jours après le début de la COP, une version actualisée de sa liste rouge, qui répertorie les espèces menacées d'extinction à l'échelle régionale et dans le monde. À ce jour, plus de 42 000 espèces sont répertoriées sur cette liste qui s'allonge sans cesse. À mesure que l'intensification de l'exploitation des ressources et des espèces s'opère, pendant que les forêts sont transformées en déserts, que les cours d'eau sont pollués ou sévèrement modifiés, l'économie et la fameuse croissance parviennent à se maintenir. Les débats soulevés par les pays non industrialisés sont reportés chaque année. Les peuples autochtones de nombreux de ces pays se liguent pour faire barrage à l'incompréhension du vivant et au mode de vie possible pour ne pas le détruire. Car rappelons-le, ces peuples veillent à une gestion économe et connectée des ressources qu'ils utilisent pour vivre au mieux dans la maison terre. Ces gardiens se mobilisent à chaque COP en comptant l'histoire qu'ils vivent tous les jours à voir leur maison disparaître. Pour mieux comprendre l'accord qui a été convenu cette année, il nous faut revenir sur les précédents engagements de la COP de la diversité biologique. 2003, le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, En gros, cela permet de stopper à la frontière des OGM non désirés sur le territoire. 2010. Les 20 objectifs d'Aichi constituent un plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 pour la planète. Le plus connu des objectifs, d'ici à 2020 ou plus tard, les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes à tous les niveaux ont pris des mesures ou ont appliqué des plans pour assurer une production et une consommation durables et ont maintenu les incidences de l'utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques sûres. 2014. Entrée en vigueur du protocole de Nagoya. L'objectif est donc de fournir des outils pour combattre la biopiraterie, l'appropriation illégitime des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles autochtones. Suite à la fin du plan d'action à la dernière COP en 2020, plan qui s'est soldé par un échec cuisant, un nouvel accord devait être conclu cette année. Les objectifs principaux, d'ici 2030, protéger 30% des terres et 30% des océans sur la planète. Réduire de moitié le risque global causé par les pesticides et les produits chimiques très dangereux. Restaurer au moins 30% des espaces marins et terrestres dégradés. Et diminuer le taux d'introduction des espèces envahissantes de moitié. Mettre un terme aux extinctions d'espèces menacées par les activités humaines et réduire significativement le risque de disparition. Secteur agricole, forestier et de la pêche devront être gérés de manière durable, notamment grâce au développement de l'agroécologie. Plusieurs figures autochtones ont été entendues lors de la COP15, comme Lucy Mulinke, Maasai du Kenya, qui a défendu qu'aucune décision concernant la biodiversité ne devait être prise sans les peuples autochtones, qui vivent sur au moins 25% de la surface terrestre, concentrant près de 80% de la biodiversité. L'accord semblant ne pas se conclure, des manifestations, malgré des fortes températures négatives, ont pris place à Montréal. Sous pression, la COP va ajouter une séance pour qu'elle ne finisse pas sans un accord, mais ce dernier sera jugé quand même insuffisant par de nombreux pays tels que le Brésil, l'Argentine, la République démocratique du Congo et le Cameroun. En définitive, l'accord ne contient aucun mécanisme pour contraindre les pays à réviser leurs plans s'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire. Ils sont simplement tenus de préciser les mesures qu'ils souhaitent appliquer dans leurs programmes nationaux, comme la future stratégie nationale de biodiversité de la France. On ne spécifie pas non plus si les 30% des terres à protéger correspondent à 30% de chaque pays. Le flou demeure. Pour l'action des entreprises, pas d'interdiction ni même de limitation, on parle d'autorégulation. Il sera ainsi question que chaque entreprise publie un rapport détaillant les conséquences sur l'environnement de ses activités. Déforestation, destruction d'espèces, artificialisation de terres, sans toutefois qu'il y ait une autorité indépendante pour suivre et contrôler ces rapports. Ne perdons pas espoir et enfonçons-nous dans la forêt. Je vous invite à me suivre dans la lecture d'un récit fantastique où votre mission consistera à retrouver l'élément qui diverge du réel. L'Arbre Monde, chapitre 7, Patricia Westerford, Caroline du Nord, dans la forêt expérimentale Franklin. Elle se fout un peu de ce qui se passe en dehors de cette forêt. Le monde dont elle a besoin se trouve tout entier ici, sous cette canopée, la biomasse la plus dense qu'on puisse trouver sur Terre. Des torrents abrupts et métalliques érodent des empilements rocheux ou pondent les saumons, de leur eau assez froide pour tuer toute douleur. Les automnes flamboient sur des crêtes muées en jade par la mousse, et jonchées de branches tombées. Dans les trouées éparses ménagées çà et là, au cœur du sous-bois, se réunissent des sociétés secrètes de sureaux. Myrtilles, symphorines, bois piquants, holodisques et kinikiniques. De grands conifères tout droits, monolithes, hauts de 15 étages, épais d'une longueur de voiture, leur font un toit. L'air autour d'elles résonne du bruit de la vie qui s'affaire. Le chibi d'invisible roitelet, le marteau-piqueur poc-poc industriel des pivers à l'ouvrage, le bourdonnement de la fauvette, le frisson d'ailes de la grive, les pipip des corps au hasard du sous-bois, la nuit, le ululement frais des chouettes lui glace le sang, et toujours, le champ d'éternité des Rainettes. Partout dans cet Éden, les incroyables découvertes de ses collègues confirment ses soupçons. Une longue et lente observation tourne en ridicule ce que les gens pensent des arbres. En un mot, la patrie riche et brune du sol, lui-même largement composé de microbes inconnus et d'invertébrés, peut-être un million d'espèces, canalise le pourrissement et bâtit sur la mort de diverses façons qu'elle commence seulement à piger. Ça l'exalte de prendre part au repas, au rire, au partage des données, à ce réseau fiévreux qui échange ses découvertes. Tout ce groupe qui regarde, ornitho, géologues, microbiologistes, écologistes, zoologues de l'évolution, experts en sol, grands prêtres de l'eau. Chacun d'entre eux connaît d'innombrables vérités infimes et localisées. Certains travaillent sur des projets voués à s'étendre sur 200 ans, au moins. Certains sortent tout droit d'Ovide, des humains en voie de se muer en créatures plus vertes. Ensemble, ils forment une seule association symbiotique, comme ceux qu'ils étudient. Il s'avère que les millions de boucles invisibles et emmêlées de la jungle tempérée ont besoin de tous les intermédiaires et courtiers de la mort pour faire fonctionner les circuits. Si on nettoie un tel système, on assèche les innombrables sources autonourricières. Cet évangile de la sylviculture nouvelle est confirmé par les plus merveilleuses découvertes. Des barbes, de lichens très hauts dans les airs, qui ne poussent que sur les plus vieux arbres et réinjectent l'azote vital dans le système vivant. Des campagnols souterrains, qui se nourrissent de truffes et répandent les spores du champignon des anges dans tout le sous-bois. Des champignons, qui infusent dans les racines des arbres en une osmose si étroite qu'il est difficile de dire où s'arrête un organisme et où commence l'autre. Des conifères massifs, d'où percent des racines adventices au plus haut de la canopée, qui replongent pour se nourrir des matelas d'humus accumulés dans les fourches de leurs propres branches. Patricia se voue au sapin de Douglas, droit comme une flèche, sans s'étrécir. Il s'élève à 30 mètres avant la première branche. Écosystème à lui tout seul, il abrite plus de 1000 espèces d'invertébrés. Charpente de cité, roi des arbres industriels, l'arbre sans qui l'Amérique aurait été une perspective très différente. Ses chouchous sont dispersés autour de la base. Elle peut les repérer à la frontale. Le plus grand doit avoir 6 siècles. Il est si haut, si proche des limites supérieures imposées par la gravité, qu'il lui faut 1 jour et demi pour acheminer l'eau de ses racines jusqu'aux plus hautes de ses 65 millions d'aiguilles. Et chaque branche embaume la délivrance. Ce qu'elle les surprend à faire, au fil de ces années, l'emplit de joie. Quand les racines latérales de 2 sapins de Douglas se rencontrent sous terre, elles fusionnent. Par ces nœuds auto-greffés, les 2 arbres réunissent leur système vasculaire pour ne faire plus qu'un. Tissés ensemble sous terre par des milliers et des milliers de kilomètres de fils fongiques vivants, les arbres se nourrissent et se guérissent l'un l'autre, protègent la vie des jeunes et des malades, réunissent leurs ressources en une cagnotte commune métabolique. Il faudra des années pour que se dessine cette vision. Il y aura des découvertes, d'incroyables vérités confirmées par un réseau mondial croissant de chercheurs au Canada, en Europe, en Asie, qui échangent joyeusement leurs données par des canaux toujours meilleurs et plus rapides. Les arbres de Patricia sont bien plus sociables qu'elle-même n'aurait pu le soupçonner. Il n'y a pas d'individus, il n'y a même pas d'espèces séparées. Tout ce qui est dans la forêt est la forêt. La concurrence n'est pas séparable des multiples saveurs de la coopération. Les arbres ne se battent pas plus que ne se battent les feuilles d'un même arbre. À croire que finalement, la nature n'a pas tant de sang sur les crocs et les griffes. D'abord, ces espèces à la base de la pyramide de la vie n'ont ni crocs ni cerfs. Et si les arbres partagent leurs réserves, alors chaque goutte rouge doit flotter sur un océan de vert. La forêt dont parle l'autrice a une seule canopée. Dans les forêts équatoriales, les plus préservées, Plusieurs étages d'arbres se dessinent, formant une biomasse, un poids du vivant, bien supérieur. Cependant, la science du vivant est intimement liée à la compréhension de ce monde par le plus grand nombre. Même si peu de personnes sont fondues du vivant comme Pat, de nombreux curieux explorent des processus créatifs en s'inspirant du vivant et pour le révéler sous un nouveau visage. Dans la branche scientifique pédagogique, on retrouve la chronique de la forêt expérimentale, accessible sur le net et réalisée par l'Université de Bordeaux, pour entrer en immersion dans une forêt urbaine aux quatre saisons. Elle veut ainsi faire découvrir cet écosystème et les bouleversements auxquels celui-ci fait face avec le dérèglement climatique. Dans une volonté de toucher le spectateur, on peut citer également le travail de Julianne Charrière. The Blue Fossil montre à voir les glaciers différemment. Photographie parfois surréaliste, où l'artiste fait fondre avec une lampe à gaz l'iceberg qu'il a escaladé. Sa silhouette, dans une position de conquérant tout en étant minuscule et fragile, rappelle l'ambiguïté de notre rapport à la nature. Richard Longmarche pratique quant à lui le land art. Cercle de pierres assemblées, empreintes de ses pas sur le sable ou sur la neige, ou au reste d'un feu de camp, forme une œuvre éphémère. Il ne sculpte pas, il se déplace, il trace, il marche. Sa volonté de faire de l'art en marchant lui sert à percevoir et faire percevoir des sensations et des sentiments. Ses œuvres sont tout un travail sur le temps, l'éphémère et l'éternité. Les pierres restent, alors que les autres matériaux évoluent, se transforment.
Tu as pêché où, baobab, acajou ?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons écouter des amoureux de l'écologie cuisiner aux petits oignons.
De palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.